Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Tour d'Europe, votre émission sur l'actualité des championnats européens. Je suis Arthur Merle et je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle émission et pour vous accompagner en ce lundi de Pâques. Trois invités ce lundi, on va commencer en France avec Elton Mokolo qui va revenir avec nous sur cette victoire parisienne dans le choc face à l'Olympique de Marseille, choc qui n'en avait finalement que le nom à cause d'un OM notamment décevant. Qu'est-ce que ça dit sur le comportement olympien dans ces chocs contre Paris et plus globalement sur le niveau de la Ligue 1? Eh bien, on demandera tout ça à Elton. On filera ensuite du côté de la Première Ligue qui proposait elle aussi un énorme choc dimanche entre Manchester City et Arsenal, un choc qui a fait flop. Qui est le gagnant du week-end? Liverpool. Quel est le problème de City dans ses matchs contre les gros? Eh bien ça, on le demandera à Philippe Auclair. Et on terminera en Bundesliga avec David Lortolari, puisque là, la course au titre, elle semble bel et bien terminée. Défaite du Bayern, victoire de Leverkusen. Est-ce bel et bien bouclé, comme le dit Thomas Tuchel? On va demander ça à David Lortolari, qui va aussi revenir sur cette prolongation de l'aventure entre Xabi Alonso et son nouveau club de cœur. Voilà, le programme est complet. Le rappel habituel, vous pouvez retrouver Tour d'Europe en tapant Eurosport Football Club sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Et puis, comme chaque semaine, vous retrouverez aussi les meilleurs extraits de l'émission en vidéo sur eurosport.fr. Voilà, on est prêt, on peut y aller. On commence ce Tour d'Europe en Ligue 1, notre championnat de France qu'on retrouve après la trêve internationale. Et on retrouve donc par la même occasion notre spécialiste du football français. Salut Elton, j'espère que tu vas bien. Est-ce que ton week-end de Ligue 1 a été bon et quelle image tu en as retenu avant qu'on vienne sur ce classique entre l'OM et le PSG?
Salut Arthur, j'espère que tu vas bien. Oui, personnellement, j'ai un peu profité de cette semaine, de la semaine dernière qui était consacrée au repos pour recharger les batteries avant le sprint final en Ligue 1. Si je devais garder une image, c'est plutôt via un joueur qui a marqué à deux reprises vendredi, c'est Zegrova, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas nécessairement beaucoup de Zegrova, c'est davantage la partition collective de Lille qu'on évoque, mais le fait que Zegrova soit buteur à deux reprises à l'occasion d'un doublé, qui a une importance qui est quand même capitale dans la perspective de la Ligue des Champions, et ben pour moi, c'était l'occasion justement de lui donner un coup de chapeau par rapport à la saison qu'il fait et par rapport à sa capacité à être décisif et de bonne augure avant le match contre l'Olympique de Marseille et aussi avant la double confrontation contre Aston Villa, où là, pour le coup, il sera énormément scruté.
C'est vrai qu'il y a eu du génie lors de ce derby du Nord avec Zegrova, et c'est ce qu'il a un peu manqué dans ce Marseille-Paris-Saint-Germain de dimanche soir. Victoire 2-0 du PSG. Alors, on va rappeler un petit peu les éléments de contexte, mais Marseille, plutôt bien démarré, a été en supériorité numérique avant la pause. Finalement, ça a donné un match globalement décevant. Alors, je vais te demander si tu partages déjà cet avis, Elton. Qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre?
Ouais, pour le coup, je te rejoins sur l'idée générale de la rencontre, à savoir que c'était une rencontre décevante. Je peux avoir de l'indulgence pour le PSG à partir du moment où ils étaient réduits à 10 contre 11, mais j'ai beaucoup moins d'indulgence par rapport à l'Olympique de Marseille, parce que déjà, quand tu sais que Monaco, Brest, Lille que j'ai évoqué, on gagnait, tu savais que tu avais une obligation de résultat. Alors oui, les gens diront que c'était le PSG, sauf que il arrive un élément circonstanciel qui est très important. Il y a le carton rouge de Beraldo qui, fatalement, ça arrange la rencontre en faveur de l'Olympique de Marseille. Et on n'a pas vu une équipe qui, comme très souvent, a été en mesure de bonifier cette supériorité numérique. Donc oui, l'Olympique de Marseille a eu une bonne entame de match, et ça c'est vrai, dans l'idée d'imposer un rapport de force. Mais par contre, quand il a fallu justement faire bonifier sa supériorité numérique, ils ont été davantage en difficulté, même si encore une fois, il faut quand même préciser que Donnarumma était décisif, Donnarumma est important, mais j'ai pas eu le sentiment que Paris a été énormément acculé. C'est quand même une vision qui est paradoxale parce que Donnarumma a été mis à contribution, mais j'ai pas vu un sentiment d'insécurité pour le PSG. Et pire, ils ont réussi à te mettre deux buts sur des transitions qui sont largement évitables, comme l'a reconnu Guessé. Donc par rapport à ça, oui, c'est une rencontre décevante, mais surtout pour l'Olympique de Marseille à tous les niveaux.
Effectivement, au-delà même de cette rencontre, on a l'impression qu'il n'y a plus vraiment match entre l'OM et le PSG. Elton, on l'a rappelé un petit peu, dimanche soir, ils ont quand même beaucoup d'éléments en leur faveur, la supériorité numérique, Kylian Mbappé qui n'est pas spécialement dans un grand soir. Et pourtant, toujours pas de victoire contre le PSG. Ils sont sur une série, si je dis pas de bêtises, de plus de 400 minutes sans marquer à domicile en Ligue 1 contre le Paris Saint-Germain. Ça dit quoi de cette rivalité qui n'en est plus vraiment une, ou pas assez une peut-être, sur le terrain entre l'OM et le PSG?
Et là, pour le coup, Arthur, j'ai le sentiment que c'est même pas les planètes qui doivent être alignées pour voir l'Olympique de Marseille battre le PSG. C'est au-delà de ça, il n'y a pas de terme pour expliquer ce que doit faire l'Olympique de Marseille pour battre le PSG en Ligue 1. Parce que faut quand même rappeler que l'année dernière, ils avaient battu le PSG avec Neymar, avec Lionel Messi, mais c'était en Coupe de France au Vélodrome. Et là, pour le coup, ça renvoie à quoi? Ça renvoie à quelque chose qui s'est développé du côté de l'Olympique de Marseille et qui se voit année après année, saison après saison, match après match. C'est ce complexe d'infériorité. Parce que, en gros, se réjouir du fait que l'Olympique de Marseille, au Vélodrome, alors qu'ils ont besoin d'aller chercher avec des champions, que l'Olympique de Marseille soit satisfait d'une bonne entame de match contre le PSG, ça en dit long. L'Olympique de Marseille ne peut pas attaquer un classique en étant dans une forme de soumission mentale et en affichant juste cette idée que ça va être un sparring partner pour le PSG. L'Olympique de Marseille est un club qui, depuis plusieurs années, a mis beaucoup d'argent sur le marché des transferts et s'est qualifié en Ligue des Champions. Bon, via les barrages de Ligue des Champions, on a le droit d'attendre beaucoup plus du côté de l'Olympique de Marseille et qu'il soit au minimum un challenger pour l'Olympique de Marseille. Lapsus révélateur, mais pour le PSG, parce que je rappelle que le PSG, via son QSI, a quand même perdu trois championnats. Et quand je parle de trois championnats, on parle de Montpellier, ok, c'était la première année, c'était une version bêta, mais il y a eu Monaco et il y a eu Lille en 2021. J'ose espérer que Lille n'est pas des années-lumière de l'Olympique de Marseille. Donc c'est pour ça qu'il y a de la déception légitime qui ressort de moi, mais surtout par rapport aux supporters qui aimeraient avoir un choc un peu plus équilibré. Pas beaucoup plus équilibré, un peu plus équilibré, parce que c'est vrai que ça reste le PSG avec des moyens qui sont sans comparaison en Ligue 1.
Bon, finalement, cette déception, j'ai l'impression qu'elle dépasse un petit peu le cadre de l'OM aussi, parce que là, on est à la 27e journée et le PSG a 12 points d'avance sur son dauphin qui est Brest. Si on nous avait dit ça en début de saison, je pense qu'on aurait eu un peu de mal à y croire. Et finalement, cette course pour l'Europe, qui est assez serrée derrière le leader parisien, est-ce qu'elle camoufle pas un petit peu la faiblesse de la Ligue 1 cette saison, mise en avant par l'irrégularité de beaucoup trop de gros de ce championnat, Elton?
Oui, c'est tout à fait ça. Pour moi, c'est mon avis à savoir que, en gros, mais oui, il faut accorder énormément de crédit à ce que fait Brest. On l'a dit il y a deux, trois épisodes par rapport au fait que Brest, moi, par exemple, je les attendais davantage pour se maintenir comme il l'avait fait l'année dernière. Mais par rapport à ça, il faut pas nier le fait qu'à partir du moment où il y a les équipes, ils se battent pour la Ligue des Champions qui tournent à une moyenne de moins de 2 points. C'est quand même pas rassurant. C'est quand même pas rassurant. Et pour le coup, ça renvoie à quoi? Ça renvoie au fait que les projets ne sont pas matures du côté de la Ligue 1 et qu'il y a des équipes qui sont incapables d'établir des séries positives qui s'inscrivent dans le temps. Le fait de voir par exemple un Monaco qui est sur le podium mais qui n'a toujours pas gagné à Louis II depuis le mois de décembre, c'est pas de nature à te rassurer. Le fait de voir un Nice qui est en déliquescence totale, qui serait aujourd'hui parmi les relégables rien que sur l'année 2024, c'est pas de nature à te rassurer. Donc tout ça aboutit au fait que les équipes font du surplace au mieux et que ce surplace profite à Brest qui est dans une période d'euphorie où même s'ils sont ballottés à Lorient, eux sont capables de gagner ces matchs.
Elton, on va se projeter un petit peu sur ce qui nous attend mardi et mercredi, à savoir les demi-finales de Coupe de France entre Lyon et Valenciennes d'un côté, Rennes et le PSG de l'autre. On va se concentrer un peu plus sur l'Olympique lyonnais, si tu le veux bien, puisqu'on vient de parler de Paris. Un OL qui était au fond du gouffre début décembre, on lui donnait toutes les chances, ou plutôt à l'inverse, aucune chance de se maintenir, statistiquement en tout cas, et qui aujourd'hui Et sur le point, en tout cas une occasion en or de se qualifier pour la finale de la Coupe de France, Pierre Sage parlait d'une hypothétique deuxième partie de saison historique ou exceptionnelle. Est-ce que tu partages ça, Elton? Est-ce que l'OL peut encore réussir une saison exceptionnelle ou historique à son échelle?
Oui, ce serait une saison historique. On peut jouer sur la sémantique, mais pour moi, ce serait une saison historique. Déjà, parce que ce serait le premier titre de l'Olympique lyonnais depuis 2012 et cette victoire contre Quevilly en Coupe de France. Donc, ça commence déjà à remonter. À l'époque, on parlait d'un Lacazette qui était quand même très jeune. Ce serait le premier trophée depuis l'arrivée au Groupama Stadium, ce qui n'est pas rien. Et ce serait le premier trophée post-Olas. Et quand on connaît ce qu'a fait Olas pour l'Olympique lyonnais, ça signifierait beaucoup de choses. Et dernier élément, eu égard à ce que l'Olympique lyonnais a fait cette saison avec notamment le spectre de la descente, le fait de voir l'Olympique lyonnais dans un premier temps se maintenir, il y aurait une certaine logique, mais derrière remporter la Coupe de France, et ben finalement ça permettrait justement à ce groupe et à ce club de se dire qu'il y a une étape qui peut être très importante. L'étape à venir peut être très importante parce que déjà on réapprend à gagner, on s'éduque dans la victoire et par rapport à Textor, qui est quand même jugé notamment sur sa capacité à faire de Lyon de nouveau un club qui compte en France, et ben ce serait une avancée positive. Mais maintenant, on sait très bien qu'il faut bien négocier cette demi-finale contre Valenciennes, même si on parle de division inférieure, ça reste une demi-finale de Coupe de France. Et après, s'il y a finale de Coupe de France, il y a Rennes qu'il ne faut pas négliger, et il y a surtout le PSG qui n'a plus gagné la Coupe de France depuis 2021, et cette victoire contre Monaco. Donc c'est des enjeux qui sont très importants pour tous les clubs, et surtout pour l'Olympique lyonnais qui a une saison historique à aller chercher et avec ce trophée.
Peut-être pour terminer, Elton, est-ce que selon toi, l'OL a un profil d'équipe de coupe cette saison? Parce qu'on a l'impression que certains joueurs, notamment arrivés cet hiver, peuvent lui donner cette étiquette-là, et qu'à la fois, on a souvent vu la différence dans les matchs face à des équipes plus cohérentes comme le RC Lens, on a souvent vu un vrai gap entre l'OL et les plus gros.
Pour moi, faut quand même noter qu'il y a eu un redressement du côté de la Liga, mais parler de régularité pour ce club, parler de régularité pour cette équipe, ça me paraît trop prématuré parce qu'il n'y a qu'à voir le classement. Le classement ne ment pas. Le classement est un indicateur du fait que tu as eu une incapacité justement à être régulier. Donc pour moi, l'Olympique lyonnais serait davantage une équipe de coups et de coupes par extension. Donc oui, dans cette idée d'arriver sur une demi-finale face à Valenciennes, et en gros de se sublimer sur le moment présent avec la qualité intrinsèque des joueurs type Lacazette, type Matic. Bon, Anthony Lopez ne sera pas là a priori parce que ça va être le second gardien. Oui, pour moi, l'Olympique lyonnais est davantage une équipe de coups et de coupes. Et j'aime à penser que ça devrait se régler, ça pourrait se régler la saison prochaine pour peu que l'Olympique lyonnais continue de s'appuyer sur Pierre Sage et puisse capitaliser sur la dynamique de la deuxième partie de saison.
Ce sera un sujet intéressant à évoquer pour la suite, effectivement, l'avenir ou non de Pierre Sage à l'Olympique lyonnais. On aura l'occasion d'en reparler avec toi, Elton. Merci beaucoup pour toutes ces analyses et on te retrouve la semaine prochaine pour de nouveau analyser notre bonne vieille Ligue des Talents. Salut, Elton.
Merci beaucoup. Salut.
On enchaîne avec l'Angleterre, théâtre ce week-end d'un choc très très attendu entre Manchester City et Arsenal. On va y revenir dans quelques instants avec Philippe. Salut Philippe. Mais d'abord,
bonjour.
on va quand même se concentrer sur ce qui est finalement l'information principale du week-end, la victoire de Liverpool contre Brighton 2-1, parce que les Reds, ce sont eux les grands gagnants du week-end dans la course au titre, Philippe.
Ouais, ça n'a pas été nécessairement très facile pour Liverpool puisque Danny Welbeck avait ouvert la marque d'entrée de jeu pour les Seagulls. Mais bon, on a vu Liverpool montrer ce que Liverpool sait faire avec un très 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 bon Alexis Mac Allister. Je rappelle que le prix d'achat de McAllister, c'était 35 millions, ce qui de nos jours, c'est un petit peu ce que tu trouves sous les coussins du sofa, on va dire comme ça, en première ligue, mais qui est devenu, bon, cheville ouvrière de cette équipe de Jürgen Klopp. Et donc, bon, ça y est, il lançait le défi à Arsenal et Manchester City, qui sera capable de nous accompagner? Et la réponse, c'est que c'est un match nul entre les deux, mais c'est un match nul où il y a eu un gagnant et un perdant. Ça peut arriver, et je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que le perdant, c'est Manchester City, qui sera tout maintenant troisième. Manchester City qui continue d'avoir des petits problèmes contre des grosses cylindrées, on en reparlera. Et puis une équipe d'Arsenal, tu vois, moi, il y a un truc, quand tu as vu la composition d'équipe, tu n'aurais absolument pas pu deviner comment Arsenal serait organisé. En fait, dans cette rencontre. Et parce qu'en fait, Arsenal a la meilleure attaque et la meilleure défense de la Première Ligue. Et là, on a vu la meilleure défense. À savoir que on se dit, ouais, on va avoir Havertz, Saka et Gabriel Jesus en attaque, ça a de la gueule, Martin Ødegaard. Sauf que Gabriel Jesus, il se retrouvait arrière-gauche dans une défense à 5. Sauf que Erling Haaland, qu'on n'a pas vu. Une fois de plus, il y avait un joueur qui s'appelle William Saliba, qui a des grandes poches dans son short, suffisamment grandes pour mettre l'attaquant norvégien, parce qu'on l'a pas vu, une fois de plus. Et au passage, je ne peux pas m'empêcher de redire combien William Saliba est immense avec Arsenal cette saison, et qu'il est considéré en fait avec Virgil van Dijk comme le meilleur défenseur central de la Première Ligue, je pense par à peu près tout le monde maintenant. Donc c'était juste un petit message pour notre ami Didier Deschamps, qui l'a enfin titularisé, mais je pense que s'il a vu le match contre Erling Haaland, peut-être qu'il le titularisera à nouveau dans pas très longtemps. Anyway, on ferme la parenthèse. Donc on a vu la meilleure défense du championnat, et un Pep Guardiola frustré. Peu d'occasions, Phil Foden fatigué, Kevin De Bruyne en deçà de son rendement habituel, mais tout simplement parce qu'en face, il y avait une équipe qui était admirablement organisée, avec Declan Rice, Jorginho et même Martin Ødegaard qui a fait un énorme travail défensif. Et du coup, bah, match nul, mais victoire pour Arsenal, victoire au point, j'allais dire, pour Arsenal, même s'ils sont encore, même s'ils sont maintenant derrière Liverpool, on le sait. Bon, il ne se passe pas grand-chose, hein, je veux dire, il manque pas grand-chose à cet Arsenal pour être, comment dire, pour être un vrai champion en puissance. Je ne sais pas trop bien comment le dire, parce qu'en fait, c'est bizarre, ils ont perdu du terrain ce week-end, mais ils ont confirmé leur progrès en perdant du terrain. Quand même bizarre. Mais ils appartiennent. Maintenant, quand tu penses à la Première Ligue, oui, il y a trois équipes qui se détachent du lot et Arsenal en fait partie.
Effectivement, juste pour terminer sur l'analyse de cette rencontre en particulier, on a beaucoup entendu dans la réaction d'après-match que les Gunners, certes, auraient aimé faire mieux offensivement, mais ce qui ressortait, c'est aussi qu'ils avaient appris, notamment de leur confrontation directe de la saison dernière. Est-ce que c'est ce que tu ressens aussi?
Ouais, absolument. Quand ils avaient pris le 4-1, là, qui avait fait très, 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 très mal, si je ne m'abuse, un certain William Saliba ne jouait pas ce jour-là. Mais là, on a une organisation défensive beaucoup plus solide. Encore une fois, tu n'es pas la meilleure défense du championnat d'Angleterre par hasard. Et ils ont frustré d'espace cette équipe de Manchester City, où en fait, tous les joueurs créatifs, tous les joueurs dont on s'attendait à ce qu'ils puissent faire basculer la rencontre. Bon, il y a eu quelques demi-occasions de part et d'autre, mais en fait, l'occasion la plus franche, peut-être, c'est pour Nathan Ake, sur un coup de pied arrêté. Donc, ils ont empêché Manchester City pour la deuxième fois cette saison de marquer. N'oublions pas qu'ils avaient gagné 1-0 à l'Emirates lors du match aller. Et ça, c'est quand même un petit exploit qui montre combien cette équipe d'Arsenal a changé, et puis qui également nous fait attendre non seulement la fin du championnat d'Angleterre, mais aussi la Ligue des Champions, où il y a une double confrontation contre le Bayern en vue. Puis derrière, si ça passait, une double confrontation contre ou le Real ou Manchester City. Donc, je pense que Mikel Arteta a toutes les raisons d'être satisfait, sauf s'il regarde, comme je l'ai fait ce matin, le calendrier. Et c'est là où tu te rends compte qu'il y a une équipe qui a un calendrier plus facile que les autres, je dirais, c'est Liverpool. Et que ça va être compliqué. Là, je vois difficilement Sheffield United leur prendre un point cette semaine, puisqu'on a une journée intercalée, hein, cette semaine en Angleterre. Et quand je regarde Arsenal, que je vois qu'ils doivent encore jouer contre Villa, qu'ils doivent jouer contre Chelsea, qu'ils doivent aller à Tottenham, qui doivent aller à Manchester United et qui vont recevoir Everton le dernier jour de la saison, alors qu'Everton se bat pour éviter la relégation. C'est compliqué, alors que Liverpool, grosso modo, bah, je regarde le derby de la Mersey, oui, peut-être. Manchester United, ouais, mais enfin bon, sur le papier, oui, mais c'est le Manchester United qu'on voit en ce moment, je ne pense pas qu'il pèserait très très lourd face à ce Liverpool-là. Donc quand tu compares les calendriers, Liverpool en tête, Manchester City deuxième, Arsenal troisième. Et c'est peut-être comme ça que ça se finira.
Effectivement, et alors c'est intéressant cette question des calendriers et des chocs à venir. Il y en a un à venir pour Manchester City dès mercredi contre Aston Villa. Et ça va nous permettre de mettre le doigt sur quelque chose que tu as commencé à évoquer tout à l'heure. C'est cette incapacité des Citizens à gagner contre les membres du top 5 actuel en Premier League. Aucune victoire en 6 rencontres cette saison, donc 4 matchs nuls et 2 défaites contre les membres du top 5. Qu'est-ce que ça dit? Est-ce que quelque chose a changé à Manchester City dans ces matchs-là? Qu'est-ce que ça raconte?
Ça raconte qu'on a un Manchester City qui, en effet, a des problèmes offensifs, en particulier contre ces équipes du haut de tableau. Ce qui signifie, alors, tu peux peut-être voir justement dans le fait que, par exemple, Erling Haaland, il y a certainement au niveau de sa productivité, il y a un moins cette saison par rapport à la saison précédente, c'est évident. Ça montre aussi comment les autres ont su grimper en puissance, ont su monter en puissance, parce que parmi ces équipes figure Aston Villa précisément, parce que
Oui.
Aston Villa, on se souvient, avait fait une performance absolument éblouissante à Villa Park lors des matchs aller. Et là, ils sont pas tout à fait aussi bien qu'ils l'étaient à l'automne dernier, mais ce Manchester City, oui, n'est pas aussi flamboyant que celui du triplé. C'est pas un manque de motivation. J'ai entendu quelques personnes parler du fait qu'une fois que tu as tout gagné, peut-être que tu n'as pas tout à fait le même aiguillon. C'est pas ça. C'est plutôt que il y a eu des changements de personnel, il y a des joueurs à inclure, il y a des joueurs qui sont un petit peu en retrait de ce qu'on attendait d'eux. Il y a eu des blessures également. Tu mets tout ça ensemble et tu as l'impression que, en même temps que l'augmentation de puissance des rivaux directs, et tu as l'impression qu'en effet, c'est une équipe qui est un petit peu en deçà de ce qu'on a vu les années précédentes, et en particulier en 2022-2023. Donc c'est vrai, mais c'est une statistique parlante. Je veux dire, si jamais on parle de 6 matchs maintenant, ce n'est pas un hasard. Et quand tu connais les taux de réussite habituels de Manchester City, contre les équipes justement du top 5 également, ça dénote. C'est pas du tout la même chose. Alors écoute, je vais y réfléchir encore, parce qu'en fait, on n'a que des éléments de. On ne peut apporter des éléments de réponse, mais chaque match est différent des autres. Ce qu'on a vu hier, par exemple, c'est une équipe de Manchester City qui a eu de la peine contre un bloc bas très très bien organisé. Et en même temps, peut-être qu'ils avaient en tête derrière que, bon, si jamais tu te fais contre-attaquer par Odegaard, Havertz, Martinelli et Gabriel Jesus, ça peut être compliqué.
C'est
Et Ben
ça,
White.
on a quand même l'impression qu'il y a un point commun, même si c'est difficile de tirer des conclusions, mais entre tous ces matchs contre les gros, c'est que l'obsession de Pep Guardiola pour le contrôle est vraiment exacerbée dans ces grands matchs-là, ce qui peut donner des choses un petit peu parfois, des possessions un peu stériles. Est-ce que ça, c'est des
Ça a
critiques
été le
qu'on peut
cas.
entendre?
Des critiques, je ne sais pas si qui que ce soit se sent l'appétit de faire des critiques
Ouais.
de Pep Guardiola après ce qu'il a accompli et ce qu'il a accompli avec Manchester City. Mais c'est vrai qu'on voit un petit peu de cette possession stérile. Là, je crois que les stats pour le match contre Arsenal, c'était 72-28. Mais et dans ces conditions, normalement, à Manchester City, au top de sa forme, quand tu vois 72% de possession, tu te dis que ça a dû passer à un moment ou à un autre. Ça n'a pas été le cas. Et ils ont souvent été dans ce type de situation. Une différence était le match contre Liverpool, qui était un match complètement ébouriffant, ouvert. Ça allait à 200 à l'heure d'un moment, comment dire, d'un bout du terrain à l'autre. Mais c'est parce que c'est l'opposition Liverpool. Manchester City, mais pour les autres, ça a été davantage. On a du problème maintenant, en ce moment, contre des défenses mieux organisées. Et le fait est aussi que tu as des équipes qui ont appris à s'organiser contre les équipes de Pep Guardiola, qui savent les faire se détourner vers ce qui sont des impasses en l'occurrence, les forcer à jouer en handball, ce qui n'est pas nécessairement la volonté de Kevin De Bruyne et des autres. Mais bon, hier Arsenal y est parvenu, comme d'autres étaient parvenus avant eux, et on va voir. Bon, la Villa. A priori, à l'Etihad, si ça coince, là, il y a vraiment un problème. Je t'avouerai très franchement que ça m'étonnerait que ça coince contre les Villans.
Bon, on en reparlera en tout cas parce que cette course est toujours plus passionnante et chaque semaine a sa vérité dans la course titre de Première
Ouais.
Ligue. Donc évidemment, on sera là au rendez-vous lundi prochain pour débriefer ce qui s'est passé dans ce nouveau week-end. Merci beaucoup Philippe pour ton analyse. On te retrouve très vite.
À bientôt.
On termine ce tour d'Europe du côté de la Bundesliga et on rejoint David Lortolari pour débriefer ce qui s'est passé. Et il y a eu des choses importantes ce week-end en Allemagne. Salut David. Alors, deux éléments à retenir. La victoire de Leverkusen contre Hoffenheim dans les derniers instants. La défaite du Bayern à domicile contre Dortmund 2-0. Et j'allais dire même un troisième élément, cette déclaration de Thomas Tuchel qui dit que pour lui la course au titre est terminée. Ça fait pas mal de choses à débriefer, David. On va peut-être commencer par le Bayern. On sentait du mieux et là il y a cette rechute. Comment on explique tout ça, David? Je crois que tu as pas mal de choses à dire.
Oui, alors on l'explique pas. Salut à tous, on l'explique pas au Bayern. On a eu Joshua Kimmich en après-match, en interview, qui a rappelé les choses habituelles, c'est-à-dire pas assez d'engagement. Un match comme ça doit pas être un match amical contre Dortmund. On doit être prêt à courir sur le terrain dès la veille. Des choses évidentes que le Bayern n'a pas montré. Thomas Müller également s'est montré sans explication après le match, en disant ben moi je suis pas professeur de mathématiques. Je sais qu'il reste mathématiquement une chance. J'ai pas grand-chose de plus à dire. Effectivement, il reste mathématiquement une chance parce qu'il y a encore 21 points à prendre, mais le Bayern a désormais 13 points de retard, donc c'est compliqué. Et Thomas Tuchel qui lui a dit ben, je sais pas expliquer encore une fois, et qui a renvoyé les comment dire les félicitations pour le titre d'ores et déjà effectivement à Leverkusen. C'est la déclaration du week-end. Arthur, il y a un FC Bayern cette saison qui est complètement en dents de scie. J'ai noté 3-4 éléments là très rapides pour vous, pour que vous vous souveniez dans quelle mesure cette saison est complètement erratique. 8-0 contre Darmstadt, juste après élimination en coupe contre Sarrebruck, équipe de troisième division. 4-0 à Dortmund, 4-0 à Dortmund, avec dans le même temps une campagne de Ligue des Champions parfaite. Derrière, on prend 5 buts contre Francfort. Victoire contre Hoffenheim début 2024. Derrière, on perd contre le Werder à Munich pour la première fois depuis 16 ans. Ce week-end, Thomas Tuchel qui déclare juste avant le match, nous sommes actuellement en pleine confiance. On est en pleine confiance en nous. Derrière une défaite piteuse, 0-2 contre le Borussia Dortmund. C'est inexplicable pour les gens du Bayern, on l'a dit. Pour les confrères aussi, cette année, le Bayern Munich n'est même plus, rendez-vous compte, 2024, n'est même plus la meilleure équipe de Bavière. C'est Augsbourg qui est la meilleure équipe de Bavière en 2024, dans cette année civile. Donc vraiment, le Bayern, c'est impossible de prédire. Et on se demande si cette défaite piteuse contre Dortmund ne va pas être à nouveau dans l'autre sens un coup d'accélérateur pour le match contre Arsenal qui arrive dans quelques jours.
Effectivement, très difficile à lire cette saison du Bayern. Par contre, il y a une saison qui est extrêmement claire à analyser, c'est celle de Leverkusen. C'est une pente ascendante constante, des scénarios sauvés alors qu'ils semblent mal embarqués. Bon, David, question très directe, mais est-ce que tu es d'accord et est-ce que l'Allemagne du foot est d'accord avec cette déclaration de Tuchel? Est-ce que le titre est joué? Est-ce que la Bundesliga va enfin arriver dans l'armoire à trophées de Leverkusen?
Absolument, l'Allemagne du foot est d'accord. Le week-end a encore été le symbole et l'illustration de cela. Hoffenheim qui mène longuement avec un but de l'intéressant Maxi Bayer, qui est désormais en équipe nationale. Et puis à la fin, dans les 3-4 dernières minutes, un but de Robert Andrich, un autre but derrière de Leverkusen dans les arrêts de jeu. Comme d'habitude, j'ai envie de dire quasiment chaque semaine, et le Bayer Leverkusen s'envole. Alors c'est intéressant d'ailleurs dans la comparaison avec le Bayern Munich, puisque Leverkusen jouait juste avant, ce samedi, et le Bayern, on a regardé sur les téléphones avant le coup d'envoi contre Dortmund. Leon Goretzka d'ailleurs l'a dit après le match, ça leur a mis un coup derrière la tête aux Bavarois, cette victoire encore une fois dans les dernières minutes du Bayer Leverkusen. Donc c'est clair pour les Munichois, c'est clair pour l'Allemagne du foot. Le Bayer Leverkusen désormais avec ses 13 points d'avance est assuré du titre. Ce n'est pas mathématique, mais c'est évident pour tout le monde. Et en plus derrière, je sais qu'Arthur, tu souhaites en dire un mot, prolongation de Xavi Alonso. Wirtz qui va rester, qui devrait rester aussi, donc tout sourit en ce moment au Bayer Leverkusen.
Effectivement, j'allais en venir là. Alors surtout s'intéresser à cette prolongation, en tout cas à cette annonce que Xabi Alonso va bien poursuivre le contrat qui le lie à Leverkusen jusqu'en 2026, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce que ça dit de l'évolution de ce club et de la nouvelle dimension de ce club, cette annonce? Parce que finalement, Xabi Alonso, en quelques mois, il s'est hissé parmi les entraîneurs les plus demandés d'Europe. Il y a Liverpool qui l'attendait, le Bayern qui l'attendait. Finalement, il reste. Est-ce que ça en dit plus sur lui et son choix de carrière ou sur la dimension toute nouvelle de ce Leverkusen qui impressionne l'Europe?
Ça en dit avant tout sur Xavi Alonso, qui a expliqué qu'il n'avait pas fini. Il n'en avait pas fini avec le projet Bayer Leverkusen. Super saison en cours, mais une Ligue des Champions, une campagne de Ligue des Champions à faire la saison prochaine. Et c'est un argument qui a porté. Autour de Xavi Alonso, on l'a déjà dit dans notre émission, il y a au-dessus de lui un directeur sportif, un chef au Bayer Leverkusen, Simon Rolfes. Et surtout au-dessus de Simon Rolfes, Fernando Caro, le compatriote de Xavi Alonso, qui met en confiance l'entraîneur et qui, surtout dans cette relation hispanophone, hispanophile, est un parfait contexte, un parfait environnement pour Xabi Alonso. Et puis, il se dit qu'il a le temps et qu'avec le Bayer Leverkusen, Il y a de l'inédit là à construire en ce moment. Il y a une histoire à écrire, effectivement. Pas de titre encore en championnat, ça devrait arriver dans quelques semaines. Et puis, dès cette saison, la Ligue Europa à aller chercher, un triplé à aller chercher aussi, puisqu'en coupe, demi-finale, et c'est la seule équipe de Bundesliga encore en course. Donc, les portes grandes ouvertes pour ce trophée. Et puis, donc, la saison prochaine, un palier supplémentaire avant d'imaginer, je pense que tout le monde est assez d'accord là-dessus, un club de beaucoup plus grande envergure plus tard. Le Real Madrid peut-être, Liverpool peut-être aussi. Pour Xabi Alonso, il y a le temps de continuer à s'affirmer. Mais c'est courageux de sa part, parce que Leverkusen, pour répondre aussi à la question de départ, Arthur, c'est pas un club du top 10 européen actuellement. C'est un club en progression, c'est un club en structuration, c'est un club intéressant, avec des semi-stars, on va dire. Et donc, il y a tout à construire encore. C'est le défi que se lance Xabi Alonso. Je vous avoue qu'en Allemagne, on imaginait qu'il partirait soit au Bayern dès cette saison, soit dans un club étranger. C'est une surprise et il a gagné encore plus de respect grâce à cette décision.
Est-ce que pour terminer, est-ce qu'on sait s'il a obtenu des garanties pour la saison prochaine? Il y aura la Ligue des Champions à jouer. Est-ce qu'il y a des premières informations à ce sujet qui ont fuité?
Absolument. La promesse de Simon Rolfes, le directeur sportif, c'est de construire un effectif digne de la Ligue des Champions. On n'a pas encore d'indication précise sur des renforts éventuels. L'équipe actuelle est quand même très intéressante autour de Granit Xhaka, autour de Florian Wirtz, qui devrait rester, allez, on va dire à 98%, on est sûr qu'il va rester et continuer parce qu'il a envie de jouer la Ligue des Champions avec son club, le jeune prodige Florian Wirtz. Ça fait déjà des arguments intéressants pour Xabi Alonso, qui devrait pouvoir convaincre ses dirigeants peut-être de faire venir 2, 3, 4 renforts autour de cette équipe qui est très équilibrée, très performante. On va se pencher désormais sur ces chantiers-là, mais il y a déjà de quoi faire. On l'a vu avec les résultats actuels, toujours pas de défaite pour les Leverkusen, rappelons-le, dans la saison 2023-2024.
Effectivement, cette série d'invincibilité, c'est une des choses qu'on va continuer de suivre et d'analyser avec toi, David. On verra où ça s'arrête, si ça s'arrête. Merci en tout cas pour ton analyse. Et puis, on aura plein de choses, pardon, à se dire dans les semaines suivantes, parce qu'il y aura aussi, comme tu le disais, de la Ligue des Champions pour le Bayern Munich. On te retrouve très vite, David. Merci beaucoup.
Merci Arthur et bonne semaine à tous.
Voilà, Tour d'Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. On remercie Simon Farvac à la réalisation et Marco Popovic au visuel. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, vous aurez beaucoup de foot à regarder cette semaine, mais aussi d'autres sports comme d'habitude. Et vous aurez notamment sur les antennes d'Eurosport le Tour du Pays Basque à suivre. Voilà, régalez-vous de foot et d'autres choses et on se retrouve lundi prochain. Salut!
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.